Félix Radu, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Fayard de la pièce que vous avez écrite, Rose et Massimo, et vous allez jouer en juillet à Avignon et en septembre à Paris. Alors on va revenir un petit peu sur votre passé. À 17 ans, vous écrivez votre seule en scène, Les mots s'improsent. À 20 ans, cette pièce en question. Et maintenant, vous en avez 27, vous allez la jouer dès le mois de juillet, donc, à Avignon. Est-ce que c'est une suite logique dans votre parcours d'artiste, dirais-je, ou est-ce que à chaque fois, ce sont des étapes que vous recréez et que vous affrontez?
Bah, c'est les deux, c'est des étapes concrètes et c'est en même temps une suite logique dans mon parcours personnel. J'ai une passion pour le théâtre. J'avais ce seul en scène que j'avais écrit quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, ouais.
À 27 ans, vous êtes encore jeune, on peut le dire.
Oh, c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais oui, je rêvais de monter un spectacle, je rêvais d'écrire une pièce de théâtre avec la prétention que ça peut avoir, avec les enjeux que ça peut démontrer. Et Rose et Massimo a mis du temps, effectivement, j'avais 20 ans quand je l'ai écrite. J'ai mis 7 ans à réussir à la monter. Et là, l'aventure commence et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir un peu comment c'est reçu par les gens, comment où va mener l'aventure, quoi.
Alors, on peut dire quand même que vous avez un don, mais un don que vous avez quand même cultivé, puisque vous avez quand même été diplômé à l'IATA à Namur, Art et Parole, et puis après, vous avez été quand même élève au cours Florent à Paris. Est-ce que ce sont maintenant, rétrospectivement, des formations que vous estimez utiles ?
Bah, l'art de la parole que j'ai eu à Namur, oui. Essentiellement, c'est ça qui m'a donné toutes les bases du théâtre et l'amour de la littérature. J'ai eu comme professeur des Monsieur Keating, pour faire référence au Cercle des Poètes Disparus, des gens et qui étaient passionnés par leur taf et la transmission. Et à Florent, pour le coup, j'estime n'a pas avoir reçu l'enseignement que j'y rêvais. Et ça ne m'a pas apporté grand-chose, mis à part peut-être le savoir de ce que je ne veux pas tolérer dans le travail et le type d'acteur avec lequel je ne veux pas travailler non plus. En même temps, ça aussi, c'est une manière d'apprendre.
Hein. C'est dur quand même, comme conclusion, là, non ?
Ouais, bah, je pense que peut-être... je pense que les cours Florent, ça dépend énormément du professeur sur lequel tu tombes et de la classe dans laquelle tu tombes aussi, parce qu'on fait avec les gens qui sont là, et puis chaque professeur a sa manière d'aborder le théâtre. Et moi, dans certains des professeurs que j'ai eus, je pense que j'ai pas eu de chance en termes de timing. Et il y a énormément d'élèves, on est environ une quarantaine par classe. Les professeurs sont complètement dépassés, donc quand bien même ils seraient, et ils ont été des acteurs passionnés, des actrices passionnées, c'est impossible d'enseigner quoi que ce soit, quoi.
Au niveau de la mise en scène donc de Rose et Massimo, c'est Alain Sachs qui s'y colle.
Ouais.
72 ans pour parler à la française. Comédien, metteur en scène, bon, et la mise en scène du Feydeau, du Molière, de Marcel Aimé, même du Ruquier, du Pagnol, de Offenbach. Comme je disais, 72 ans, c'est trois générations, non ?
Ouais, bah, c'est ce que je recherchais aussi. J'étais très heureux quand on s'est rencontrés, quand il a accepté de lire la pièce. Je recherchais vachement pas ce conflit, mais cette rencontre de génération, ça créait du dialogue, en sachant que moi, effectivement, j'ai 27 ans et que la pièce s'écrit quand j'en avais 20. Et que lui, c'est un peu devenu un monstre de théâtre, quoi. Il connaît tous les classiques, il a ses gammes de théâtre. Et donc, c'est agréable aussi dans le travail de savoir qui connaît les références, parce que Rose et Massimo, c'est bourré de références littéraires. Mm. Et c'est un plaisir, c'est même un luxe, de surfer, en fait, sur son savoir et sa culture, quoi. Il me dit de lui-même, ah, ben ça, c'est une ref à Tchèque, ben on va faire ça, on va faire ça, et c'est très agréable.
Et finalement, c'est vous qui avez... derrière lui avec votre manuscrit ou on vous a présenté?
J'ai pas couru après lui, j'ai couru après un bon metteur en scène parce que c'est difficile à trouver, de trouver quelqu'un avec une sensibilité artistique qui correspond à la nôtre. Je savais qu'Alain Sachs était un monstre de théâtre et j'avais le fantasme de réussir au moins ne serait-ce à lui en parler. Mais on n'arrivait pas à le contacter et puis le hasard de la vie a fait qu'il a dû m'appeler lui pour mettre en scène un spectacle hommage à Raymond Devos. Et en l'ayant au téléphone, je lui ai dit « Bah Alain, ça tombe bien, ça fait 5 ans que j'essaye de monter un projet et j'aimerais vraiment beaucoup que tu jettes un œil. » Très poliment, il m'a dit « Je regarderai, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps. » Et puis, 3 jours plus tard, il m'a appelé et il m'a dit « Je viens de la terminer, jeune homme, j'ai rien lu de tel depuis des années, s'il vous plaît, laissez-moi la mettre en scène, j'en serais très heureux. » Et voilà comment ça s'est fait, quoi.
Alors, votre bouquin est préfacé par Alexis Michalik, un autre surdué, quand même, hein, on peut le dire. Bon, Edmond, qui l'a écrit, Molière, porté au cinéma. Il a également porté une autre de ses pièces à succès, Une histoire d'amour, récemment. Et il n'arrête pas d'être dithyrambique à votre égard. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi lui qui a 40 ans, surdoué, passionné comme vous, passionnant comme vous, pourquoi finalement c'est pas lui qui a mis en scène ?
Parce qu'Alexis, comme vous le dites, c'est quelqu'un de surdoué, de très précis dans le travail, et je pense qu'il a envie de s'atteler à ses projets, à ses rêves à lui. Et c'est tout à son honneur, parce que je fais plus ou moins pareil. Donc, quand je lui ai proposé déjà de faire la préface, il a déjà eu la gentillesse de la lire. Et d'en signer le mot, mais je pense qu'il a envie de se concentrer sur ses projets, ouais, sur ses rêves. Il n'est pas impossible qu'à un moment ou un autre, je parvienne à lui proposer quelque chose qui l'emballe. J'en rêve un peu secrètement, mais c'est déjà très cool que sur un seul et même projet, on ait réussi à réunir trois générations d'artistes, des artistes que j'estime et que j'aime et qui, je pense, font le même travail, quoi.
Alors, comme dit Alexis, il y a dans votre pièce des répliques qui font bouche, qu'on relit avec plaisir, qu'on a envie de retenir pour les ressortir éventuellement lors d'un tête-à-tête aux chandelles.
Ça fait plaisir.
ou d'un souper entre amis. Je ne dirais peut-être pas une pizza party clash, quoique, étant donné que vous dites quand même que la poésie est partout et que même les rappeurs sont des poètes.
Bien sûr.
J'ai retenu quand même certaines de vos belles répliques. Dormir, c'est mourir jusqu'à demain. Je connais des gens qui ont l'âme voyageuse et le cœur casanier. L'amour est un poignard. On ne meurt que quand il se retire. Et alors, écrire, c'est quelquefois se taire à voix haute. Le piano est comme une sorte de ligne du temps. À droite se trouve le futur, plus aigu, à gauche le passé, plus grave. Et le présent est au bout de nos doigts. Le présent, ce n'est que le futur qui danse et le passé qui gronde. Magnifique tout ça.
C'est gentil.
Et alors, pour la fin, le meilleur, et ça je vous laisse quand même le dire, page 47-48
C'est la page 47-48, exactement.
Voilà, et là, vous allez nous parler, nous dire ces beaux mots dans la bouche de Massimo pour parler de Rose et de sa beauté.
Il dit « Elle est belle. Elle est belle et le monde n'a rien inventé pour pouvoir en parler. C'est un trésor qui parle la langue du cœur. Et si tu veux savoir sa beauté, pose ta main sur ma poitrine. Chaque battement va te la raconter. Quand elle parle, on dirait qu'elle chante. Et quand elle marche, on dirait qu'elle danse. Et quand elle sourit, Aldo. Mais quand elle sourit, c'est le monde qui s'arrête de tourner. Et c'est le temps qui s'arrête de passer. En fait, elle a l'arrogance d'un Mozart. La douceur d'un Vermeer. Le génie d'un Musset. Et tous n'ont passé leur vie qu'à tenter de l'inventer. Quand ses yeux me quittent, je cesse d'exister. Mon cœur oublie comment battre, mes jambes comment marcher. Et je dois réapprendre à vivre jusqu'à les recroiser. Je suis comme plongé dans l'océan. Sans ses yeux, je suis en apnée. Je compte les heures qui me séparent d'elle, comme si je pouvais les faire à pied.
Merci. Alors, finalement, c'est vrai que cette pièce est truffée d'hommages, de références, comme on dit. Il s'agissait d'épouser les codes pour les tordre ensuite.
Oui.
On a du Tchekhov, du Dostoïevski, du Molière, du Musset, avec notamment, comme Lorenzaccio, la raison d'État qui prime, Shakespeare. C'est une sorte de best-of de littérature classique,
c'est un peu ça. C'est un peu un best-of de littérature classique. Bah, il y a la phrase « les mauvais artistes copient, les grands artistes volent ». Et j'avais un peu envie d'aller voler tout ce qui m'a plu chez tous les grands auteurs et d'en faire effectivement une grande déclaration d'amour. Parce que Rose et Massimo, je pense que ce n'est littéralement que ça. C'est une grande déclaration d'amour, autant à la littérature et à la poésie qu'à la jeune femme pour laquelle je l'ai écrit. Ça ne fait que parler d'amour dans tout. C'est la toile de fond du discours, même quand ça parle de politique ou quand ça parle d'amitié ou quand ça parle de chagrin, ça ne parle que d'amour, quoi. Ce ne sont que des gens qui sont portés par l'instinct amoureux, leur cœur, et qui brûlent et qui crient et qui courent et qui pleurent. C'est l'amour toujours, quoi.
Est-ce que vous avez encore le temps de lire avec un emploi du temps aussi chargé?
Bien sûr. De toute façon, le temps de lire, on le trouve jamais si on le prend pas. Donc, je le prends très volontiers. Et même France Télévisions m'a proposé de monter une série éducative, donc j'ai dû beaucoup lire pour eux. Donc oui, je lis.
Alors, quelques mots de vos partenaires de jeu. Rose, ce sera Lou Noéry. À peine 20 ans, enfin 21 ans, le 30 juillet, il ne faudra pas oublier quand même.
Non, c'est bien prévu.
Alors, on l'a vu dans la série « Demain nous appartient ». Nous avons Hugo le Breton, qui a joué le misanthrope au cinéma. Un film qui me touche particulièrement, c'est « Le Tigre et le Président », puisqu'on vient d'apprendre le décès de mon ami Jean-Marc Perfit. Lionel Nocentini, lui, c'est la totale. Hein. Hamlet, le roi s'amuse, la cerisée, et dans la série Engrenage. Comment s'est passé votre casting pour ces trois comédiens?
Comme c'était des rôles qui étaient très importants pour moi, que c'est une pièce que je porte vraiment très haut dans mon cœur, il fallait qu'on prenne des comédiens béton armé. Mmh. Et j'avais très envie aussi que... Comme la volonté de l'écrire devait être une accessibilité à tout le monde de pouvoir se l'autoriser, il fallait que dans les comédiens qui la jouent, on offre la chance à tout le monde. J'avais pas envie qu'on reste entre nous, ou qu'on ne prenne que des grands noms, ou des gens qui ont déjà fait leurs preuves. J'avais envie qu'on prenne les gens au talent et non à la réputation. Et non au nombre d'abonnés. Donc le casting s'est ouvert et on a littéralement auditionné des quarantaines, des cinquantaines de...
Ah oui, carrément, là.
On a auditionné beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices parce qu'on voulait... prendre la meilleure personne et on regardait ni d'où elle venait, ni où elle allait, ni ce qu'elle avait déjà fait, on regardait juste la personne arriver et son envie furieuse de défendre le texte. Et c'est ça qui a fait que Lou Noéry a eu le rôle alors qu'elle n'a jamais fait de théâtre encore aujourd'hui. Alain était persuadé que Rose serait décrochée par une grande actrice. Il m'a dit, c'est sûr qu'il nous faut quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de théâtre, une dame qui a déjà beaucoup travaillé. Donc on a auditionné des gens qui ont été nommés dans les Espoirs César, etc. Et Lou est arrivé un peu comme une anomalie. Et je sais qu'Alain Sachs a un peu tiré la tête quand il l'a vu arriver en mode « Mais qu'est-ce que tu m'as mis cette jeune femme dans la liste ?» Et en fait, elle a commencé à jouer et j'ai vu la tête d'Alain s'illuminer. Et quand elle est partie, il m'a dit « C'est elle et c'est formidable que ce soit elle. » Et je suis très heureux justement d'offrir la chance à une toute jeune actrice d'avoir déjà un beau rôle dans un beau théâtre. Ça oxygène le métier, quoi. On a besoin de faire rentrer des nouvelles têtes et de montrer que c'est pas parce qu'on n'a pas encore eu notre chance qu'on n'est pas un bon acteur. Mmh. Et Lionel, pareil, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les bancs de l'école. C'est pour moi un grand acteur, il a une grande sensibilité et je le savais en train de tourner en rond dans son salon et de le voir s'illuminer sur scène quand il défend Rubus, bah, c'est la plus belle des récompenses pour un auteur, quoi.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire beaucoup de répétitions ou assez à votre goût?
Alors on a toujours envie de répéter plus, je pense qu'on se sent jamais prêt quand on est comédien, mais Alain Sachs sait ce qu'il fait, il a monté énormément de spectacles, c'est quelqu'un qui a vraiment la culture du montage de spectacles et faut savoir faire confiance à son capitaine sur ces choses-là. Il nous a dit à cette date-là, le spectacle sera monté. On l'a regardé en mode. Et en fait, finalement, à la date où il l'avait dit, le spectacle était monté, effectivement. Quoi. Donc j'ai assez confiance en son regard de vieux loup de mer. Je me laisse porter.
En ce qui vous concerne, quel type de comédien êtes-vous? Alors vous distinguez jouer dame, je suppose c'est un peu plus comme l'acteur studio, Lee Strasberg. Méthode Stanislavski ou jouer d'intelligence?
Je pense qu'il faut savoir jouer des deux. Je pense que la vérité se trouve toujours, de toute façon, à la moitié des récits. Diderot le séparait. Moi, je pense qu'il faut vraiment les marier, quoi. Il faut comprendre qu'il faut se laisser porter par une émotion et en même temps savoir un peu comment la jouer, quoi. On est comédien, on n'est pas là non plus pour se faire du mal. Mais je pense que je suis les deux. Puis j'aime bien aussi attacher les acteurs aux quatre éléments. Et je trouve que justement dans Rose et Massimo, chaque acteur a son élément. Je sais que Rubus, par exemple, c'est plus un acteur terrien. C'est quelqu'un de très solide, parfois même peut-être un peu rigide. Et Lionel, ça lui va très bien. Aldo, c'est le feu. C'est clairement quelqu'un qui bondit, qui pétille, qui brûle et qui est tout le temps dans une sorte de surréaction continue qui est presque épuisante. Moi, je suis plutôt un acteur aérien, justement. Je joue jamais vraiment la même chose tout le temps. Puis je suis plein de jeux, de fantaisies. J'aime bien surprendre mes partenaires et je sais que ça peut les saouler un peu. Et Rose, c'est clairement l'eau aussi. Ça a quelque chose de très calme, de très rassurant. Et puis en même temps, ça va avec le courant. C'est pas prétentieux et ça joue toujours très bien. Enfin, donc je pense que les quatre comédiens ont chacun leur élément et ça, c'est ce qui va fonctionner, je crois.
Alors, quelques mots de cinéma. Vous avez été au générique de La vérité si je mens 4.
Oui.
Parmi les films préférés que vous citez, vous parlez de Forrest Gump, La La Land, Parapluie Cherbourg, c'est un peu normal en tant qu'amoureux comme vous l'êtes, aucun Lelouch.
Aucun Lelouch ? Bah, en fait, non, mais c'est parce que, tu sais, quand on me demande des listes, tu donnes les grandes têtes, mais bien sûr, enfin, en vrai, je me découvre une passion cinéphile que je n'avais pas au tout début quand j'étais petit. Je lisais plus que ce que je ne regardais des films, étrangement. Et aujourd'hui, je commence à vraiment kiffer me mettre au cinéma avec mes copains et regarder toutes les nouvelles sorties. Donc en vérité, c'est quelque chose que je découvre. Mais je vais rattraper, t'en fais pas.
Félix, un grand merci. Donc on rappelle, édition Fayard, la sortie du livre Rose et Massimo. Et alors, si on veut vous voir, ce sera du 7 au 27 juillet au Théâtre Girasol à Avignon. Et à partir du 17 septembre au Petit Montmartre.
Petit Montparnasse.
Petit Montparnasse, pardon. À Paris. Merci en tout cas.
Merci à vous.